Papa, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. C'est un plaisir et c'est d'ailleurs toujours le cas de vous retrouver, Francis Laloupo. Bonjour.
Bonjour Liliane, j'espère que vous allez bien. Bonjour à nos auditrices et auditeurs. Merci de la fidélité.
Merci à vous.
Premier sujet au sommet de cette semaine, Liliane, les violences faites aux femmes.
Oui, une journée internationale pour l'élimination de la violence à leur égard a été instituée et c'est chaque 25 novembre pour susciter un plus grand intérêt et engagement dans la lutte contre ces actes très répandus. Quel rôle doivent jouer les uns et les autres et surtout les décideurs politiques pour venir à bout de ces pratiques déshumanisantes pour les victimes? Nous en débattrons tout à l'heure.
En RD Congo, quelle réponse apporter à la colère des habitants de Beni qui manifestent contre la présence de la MONUSCO? La force onusienne.
Casse des murs d'un bureau de la MONUSCO, maison du personnel attaqué et vandalisé. La semaine a été très chaude dans cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Les populations, exaspérées par les récurrentes attaques meurtrières de groupes armés, ont envahi la mission des Nations Unies sur place, accusées de ne rien faire pour les protéger. Les forces de sécurité congolaises ont dû tirer à balles réelles pour les disperser. Francis.
Et un troisième sujet, Liliane, les enjeux du second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau.
Le match Domingos-Simoes-Pereira contre Umaro Sissoko Embalo se jouera le 29 décembre prochain. Les deux anciens premiers ministres du président sortant José Mario Vache, arrivé lui seulement en quatrième position avec 12,41% des voix, ont commencé à chercher et à nouer des alliances en vue du second round. Le troisième, Nuno Gomes Nabian, avec ses 13,16% de suffrage, est très sollicité, pour lequel des deux finalistes appellera-t-il à voter? Comment garantir un second tour apaisé en Guinée-Bissau? Débat dans un instant. Plateau avec vous, Francis, à présent.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Cotonou, au Bénin, Maître Marie-Élise Bédo, avocate, ancienne ministre du Bénin, présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin, l'AFJB. Maître Marie-Élise Bédo, bonjour.
Bonjour Francis et Liliane.
Merci
bonjour
d'être
madame.
Avec nous et un confrère invité en cette édition au téléphone depuis Kinshasa, Edmond Izouba, journaliste au site d'information Objectif Info.cd, édité en RD Congo. Edmond Izouba, bonjour.
Bonjour Francis, bonjour Liliane, bonjour à tous les fidèles auditeurs de BBC Afrique.
Et de l'Africa Radio, bien sûr. Merci beaucoup Edmond et Izouba d'être avec nous. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Marie-Élise Bédo, née à Mankono, c'est en Côte d'Ivoire. Vous avez suivi vos premières études au Bénin avant de vous rendre en France à l'université Panthéon-Sorbonne, titulaire d'une maîtrise en droit, d'un DEA en droit des affaires obtenu en 1983, suivi d'un certificat d'aptitude. La profession d'avocat, vous intégrez le barreau de Paris en 1985, avant votre retour au Bénin en 1987, où vous serez la cinquième femme inscrite au barreau deux ans plus tard. Vous ouvrez votre propre cabinet d'avocat, militante en faveur des droits des femmes, mais aussi contre la corruption. Vous présidez l'Association des femmes juristes du Bénin, ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme de mai 1998 à juin 1999, sous le mandat du président Mathieu Kérékou. Vous serez ensuite la première femme béninoise candidate à une élection présidentielle en 2001, à l'issue de laquelle vous obtenez 0,36% des voix. Vous serez de nouveau candidate à la présidentielle de 2006, puis en 2011 avec de modestes scores. Sous le mandat du président Thomas Boni Yayi, vous occuperez les fonctions de ministre de la Justice, garde des Sceaux, puis celle de porte-parole du gouvernement en 2012. Votre engagement politique est relaté dans un film documentaire intitulé « L'Amazone candidate ». Vous êtes aussi l'auteur d'une autobiographie, « Le destin du roseau », publié en 2005. Et vous êtes détentrice des titres de commandeur de l'Ordre national du Bénin et de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Marie-Élise Bédo, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Liliane,
avec plaisir.
Merci. Autant dire, Francis, que c'est un invité, ou plutôt une invitée au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violences des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Et pourtant, elle reste l'une des moins signalées. C'est ce que déclare L'Organisation des Nations Unies qui a donc décidé il y a quelques années d'instituer une journée dédiée à cette question. Cette journée est donc célébrée chaque 25 novembre. Madame Bédo, selon l'ONU, encore, beaucoup de femmes hésitent parfois à signaler les cas de violences dont elles sont victimes en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui entoure le sujet. Est-ce que dans votre pratique de terrain, vous êtes arrivée au même constat ? Mais avant de répondre à cette question, madame, je voudrais juste préciser aux auditeurs que vous n'avez pas souhaité parler de politique béninoise, c'est bien cela ?
Tout à fait.
Très bien.
Alors, je préfère rester dans l'actualité de la semaine.
D'accord, comme vous voulez. Alors, les auditeurs sont donc au courant que vous ne souhaitez pas le faire. Est-ce que dans votre pays, madame, je le disais, vous êtes arrivée au même constat en travaillant sur le terrain que beaucoup de femmes hésitent à parfois parler des violences dont elles sont victimes simplement parce qu'il y a beaucoup d'impunité, le silence et même un sentiment de honte qui entoure ce sujet ?
Je suis tout à fait d'accord avec vous et je peux vous dire que au départ, j'en étais très frustrée. Je ne comprenais pas pourquoi les femmes ne voulaient pas toujours aller plus loin que ça. J'ai fini par me dire je suis avocate, mais j'ai l'impression que les femmes font de moi une assistante sociale, quelqu'un qui peut les écouter. Et une fois qu'on a fini de les écouter, elles s'en vont, alors que nous avons besoin d'un certain nombre de documents pour pouvoir saisir soit le parquet, soit le tribunal, puisque quand même nous avons la loi qui...
Vous avez besoin de preuves.
Et ça marche maintenant au Bénin, parce qu'il y a beaucoup de femmes et avocates qui assistent ces femmes qui subissent des violences, et le parquet, les cabinets des juges d'instruction et la police judiciaire ont été formés à cela, et nous y arrivons maintenant. Mais plus on arrive, on saisit le tribunal ou bien le parquet, on commence bien, et puis en cours de route, on vous dit arrêtez. Arrêtez parce que je pense souvent que le premier problème des femmes, c'est la dépendance économique. Mais là où je le bats...
Excusez-moi, madame, avant de poursuivre, quand vous dites « on vous dit arrêter », c'est-à-dire ce sont les victimes présumées, c'est-à-dire ce sont ces femmes qui vous demandent d'interrompre la procédure.
Oui, les femmes nous demandent d'interrompre la procédure, souvent parce qu'ils ont peur de la belle-famille. Chez nous, ici, on dit « ma belle-famille me regardera avec quel œil ?» Et mes enfants ? Alors, ou bien je risque... De subir une demande en divorce. Mon mari va se séparer de moi. Donc, on se dit, tirez-lui un peu les oreilles et je continue. Mais souvent, ça ne s'arrange pas.
Les violences reprennent.
Les violences reprennent systématiquement puisqu'elles reviennent.
Merci.
Mais c'est toujours la même chose. On n'a pas le courage, on a peur. Chez nous, c'est même pas la honte, c'est qu'on a peur. Et parfois... ce sont c'est la famille même de la femme qui fait pression sur elle pour ne pas partir. Et parfois on estime que c'est un problème familial qui ne doit pas aller en justice. On ne peut pas comprendre qu'on ait des problèmes domestiques et qu'on amène ça en justice. Du coup, la famille de la femme même fait pression sur le regard qui sera porté sur elle et sur sa famille.
Merci.
Et du coup,
Francis,
on laisse tomber. Et puis, il y a aussi ce phénomène de, comment dire, où on se focalise sur les enfants. La ruse de la reproduction, ce que moi j'appelle la ruse de la reproduction, qui amène, par exemple, à rester pour les enfants ou pour ne pas faire comme sa maman qui est partie.
Oui.
Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça. Alors que nous avons tout l'arsenal juridique judiciaire aujourd'hui, au point.
Mais quand on vous écoute, Maître Bédo, on a le sentiment que c'est essentiellement une affaire de mentalité, même si l'Afrique ne détient pas le monopole en ce qui concerne les violences faites aux femmes, loin s'en faut. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'accoutumance à ce phénomène dans la société, comme si ces formes de violence étaient normales ?
Non, moi, je pense que nous sommes victimes, entre griffes, de notre société qui est purement patriarcale. Et de l'éducation de base qui a été inculquée à la femme et aux femmes de notre société. L'homme est le chef de la famille. C'est lui qui dirige, c'est lui qui a le droit à tout. Donc, on va jusqu'à vous dire que dans la soumission, si vous voulez que votre mari soit content de vous, que votre mari vous garde, etc., il faut accepter de temps en temps...
Laissez-vous frapper, en quelque sorte.
Alors, quelques chiffres, Marie-Élise Bédot. Alors, il y a 19 000 femmes tuées en 2017 par leur conjoint sur le continent africain. Et tiens, on met le zoom sur un pays comme l'Afrique du Sud. Une femme est assassinée en Afrique du Sud toutes les 3 heures et chaque jour, la police enregistre 110 plaintes pour viol. Même le président sud-africain Cyril Ramaphosa a comparé récemment le niveau de violence infligée aux femmes sud-africaines à celui d'un pays en guerre. Est-ce que les actions menées par les autorités publiques étatiques pour venir en aide aux femmes et éliminer ces violences sont à la hauteur des enjeux?
Moi, je peux vous parler surtout du Bénin. Avec ce que nous avons aujourd'hui comme arsenal de prévention, de détection et de protection, je pense qu'il y a eu une avancée notoire avec la loi que nous avons, la loi de 2012 qui prévoit tout ça. Alors, c'est que malgré ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, la femme dit, il me faut avoir un mari. C'est pour ça que je parle de notre société patriarcale. La femme qui n'a pas de mari est montrée du doigt. La femme qui n'a pas de mari n'est pas respectée. On nous dit, en tout cas au Bénin, l'homme est le chapeau. Alors, toutes les femmes, en règle générale, quelle que soit leur situation, la situation de violence vécue, on se dit toujours, quand on regarde l'environnement, le quand dira-t-on, je préfère rester là. C'est ça le problème. Donc, nous avons tous les moyens aujourd'hui, mais les femmes ont du mal à sortir de ce carcan qui fait qu'elles sont prisonnières des violences faites aux hommes, faites aux femmes, pardon.
Mais cette société, cette mentalité, Liliane?
Oui. Alors, Madame Bédot, je voudrais qu'on revienne un peu très rapidement sur les causes de ces violences sexuelles. Lors de vos enquêtes, de vos discussions avec les femmes ou peut-être avec les hommes, puisque je suppose que quand vous discutez avec les femmes, vous rencontrez aussi peut-être parfois leurs époux qui sont responsables de ces violences. Quelles sont les causes consensuelles ou bien les causes qui reviennent souvent de ces violences dont les femmes sont victimes?
Elle n'est pas soumise. Elle parle trop,
ah oui.
Elle ne m'écoute pas, elle ne m'obéit pas, comme si on était des enfants. Et ça tient à peu de choses.
D'accord.
C'est toujours par rapport à eux. Ou bien elle n'a pas vite préparé à manger. Vous savez qu'on peut tuer aujourd'hui une femme parce que le repas n'est pas prêt à
temps. Tout à fait, c'est arrivé récemment au Sénégal.
Au Sénégal, oui. Vous voyez. Donc ça ne tient pas à grand-chose. Lui peut rentrer, s'asseoir. Et la femme peut, même si elle a un boulot, elle revient, on doit s'occuper de lui, sinon c'est des bastonnades. Ça tient à peu de choses.
Et l'autre question aussi, madame, que je souhaitais vous poser, c'était au niveau de l'harmonisation même des lois et même des termes même des violences. Qu'est-ce qu'on appelle finalement violence faite aux femmes? Parce que les réalités sont différentes. Selon que ces violences se produisent en Europe ou en Afrique, je prends l'exemple, en Afrique, une femme, une épouse qui va à un commissariat se plaindre du viol de son mari, ce n'est pas, on ne l'écoute pas avec attention, c'est-à-dire qu'on trouvera cela un peu banal, alors qu'en Europe, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'harmonisation des termes même de la violence faite aux femmes,
ben
ou
oui.
Des violences faites aux femmes?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout chez nous, qu'une femme puisse prétendre que son mari l'a violée, vous imaginez. Le commissaire va lui-même, Dieu seul sait comment il lui traite sa femme à la maison. Déjà. Alors, quand toi, tu te présentes pour dire que tu as été violée par ton mari, souvent, c'est pris à la dérision. Ça, nous avons cette réalité-là.
Mais du coup, si elle n'est pas écoutée, pourquoi reviendrait-elle le lendemain lorsque peut-être son mari la brutaliserait en cas de refus, disons, de rapport sexuel? Donc, si déjà elle n'est pas écoutée pour cela, demain, elle peut subir en silence les violences consécutive justement à son refus de se soumettre à l'acte sexuel.
Oui, oui, vous savez, au moins ce qui est bien, c'est la sensibilisation que nous faisons. Nous leur disons toujours, venez nous voir. Quand le commissariat c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, savent qu'il y a un avocat, une avocate derrière, la donne change. Parce que nous, nous choisissons souvent d'aller au parquet, carrément. Et le parquet renvoie le dossier pour enquête. Après avoir écouté la dame, et quand la dame est assistée, la victime est assistée d'un avocat, ça passe toujours mieux. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas au Bénin, les magistrats ont été bien formés.
Excusez-moi,
mais ça
maître
bien formé,
Francis,
mais voilà, Bédo, est-ce que la notion de viol conjugal, le délit de viol conjugal est inscrit dans la loi, et est-ce que cette notion est aujourd'hui acquise dans les mentalités sociales?
Nous y essayons, mais c'est bien prévu dans la loi. La loi de 2012 que nous avons prévoit bien le viol conjugal. C'est ça qui nous permet de faire la sensibilisation et c'est ça qui permet de former et de sensibiliser les OPJ, les magistrats et tout l'arsenal juridique et judiciaire, les juges d'instruction aussi. Donc, de plus en plus, on essaye. Et même parfois, c'est la femme même qui a des doutes. Bien sûr, elle vous dit « il m'a forcé ». Je ne voulais pas, mais il m'a forcé, ça m'a fait mal, et puis il m'a battu après. Mais quand on lui dit, allons en justice, elle dit, elle a honte. Moi, je ne peux pas aller voir un magistrat, ou bien je ne peux pas aller dire ça. Je ne peux pas aller me plaindre.
Donc les femmes subissent une double peine, en fait, c'est ça ?
Il a raison.
Les femmes subissent une double peine. Il y a à la fois donc l'agression physique, le viol éventuellement, et aussi le silence auquel elles sont soumises.
Elles sont soumises, absolument. Donc... Il y a aussi un travail à faire sur la femme elle-même. Et je vous assure que c'est le plus difficile. Parce que parfois, lorsque vous voulez les accompagner, elles vous disent, je vais réfléchir. Et vous lui dites, mais même parfois, elles finissent par croire qu'elles sont elles-mêmes la cause. Oui. Elles finissent par s'auto-flageller. Moi, j'appelle de l'auto-flagellation. Et elles disent, après tout, c'est peut-être qu'il a raison. Oui. Effectivement, vous savez, et moi aussi, j'ai crié un peu fort. Hein. Vous savez, je lui ai crié dessus. Oui. Il a peut-être... Il y a aussi... La femme elle-même est un problème pour elle-même par rapport
aux violences. Les femmes sont les freins même à la réussite de la lutte contre les violences dont elles sont victimes.
Madame, tout à fait.
Je voudrais en quelques mots, puisqu'on va bientôt marquer la pause, parler aussi... Je parlais de l'harmonisation des lois et des termes, mais est-ce que les féministes... ont le même discours à l'endroit des décideurs qui peuvent peut-être jouer un rôle significatif dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Je prends l'exemple. J'entends certains féministes ici au Sénégal dire même la polygamie non consentante est une forme de violence. Or, en Europe, la polygamie, la question de la polygamie ne se pose même pas. Est-ce que finalement c'est facile d'avoir le même discours dans la lutte contre les violences faites aux femmes et du coup d'obtenir les mêmes résultats?
Non, je ne pense pas parce que, bon, en Afrique, nous ne tenons pas les mêmes discours suivant les violences. Regardez, quand nous parlons de la polygamie, comme vous le dites, mais il y a encore des femmes aujourd'hui qui revendiquent la polygamie et qui disent, nous avons droit, c'est nous-mêmes qui choisissons, nous sommes prêtes à être la cinquième femme. Alors que nous avons des lois, au Bénin, par exemple, c'est la monogamie qui est le droit commun. Hein? Mais vous avez des femmes qui disent, mais non, nous voulons être, ça ne nous gêne pas d'être dans la polygamie. Alors que nous nous sommes battus pour qu'on puisse reconnaître une seule femme devant l'officier de l'état civil, mais d'autres, et que, attention, la loi est claire en disant, quand vous choisissez d'épouser ou bien de vous mettre avec un homme qui est déjà marié, la loi ne vous connaît pas. Quand il y aura des problèmes, puisque... Le régime matrimonial qui est retenu, c'est la monogamie. Mais d'autres femmes disent, mais non, ça nous convient comme ça.
Merci beaucoup, madame. On va marquer une pause.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Avec notre grand témoin invité dans cette édition depuis Cotonou, au téléphone, maître Marie-Élise Gbedo, avocate, ancienne ministre du Bénin, présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin, et notre confrère invité depuis Kinshasa, Edmond Izouba, journaliste aussi d'information objectif-info.cd, qui va peut-être nous apporter son commentaire après avoir écouté notre grand témoin, Edmond Izouba. D'abord, nous en parlons parce qu'il faut le rappeler, hein, le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes, journée soutenue par l'ONU. Quelle est la vertu, selon vous, de cette journée consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes? Est-ce que cette journée participe d'une prise de conscience internationale sur la question?
Merci beaucoup pour la question. Je commencerai d'abord par saluer le souci collectif qui anime actuellement le président ou le pays africain qui enrichissent pratiquement tous les jours leur arsenal juridique des textes pour sanctionner les auteurs de ces violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Mais ici, en République démocratique du Congo, permettez-moi de vous dire que la situation est un peu plus grave, et je dirais même flagrante, quand on se limite seulement à dire la violence ou les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, mais ici, au Congo, nous devons ajouter un aspect majeur.
La violence sexuelle commise en situation de conflit.
Non seulement ça, mais au bébé. Donc, quand vous suivez même le plaidoyer cinglant et de Dr Denis Mukwege, le prix Nobel, qu'on appelle communément le réparateur de femmes, vous vous rendez compte que, ici au Congo, la violence sexuelle ou les violences sexuelles sont plus utilisées comme une arme pour accéder au pouvoir. Donc, vous avez le choix actuellement avec la venue d'un nouveau régime parce que la situation a eu une autre dimension. On est face à un dilemme, soit faire la paix ou agir par sanction.
Alors justement, Edmond Izouba, arrêtons-nous un instant sur ces violences utilisées comme armes de guerre. Vous parliez à l'instant de Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, chirurgien, prix Nobel. Et on se souvient, lorsqu'il avait reçu ce prix Nobel, on se souvient qu'il y avait eu très peu d'enthousiasme au sein du pouvoir, au sommet de l'État. Il avait été très peu soutenu à ce moment-là par le régime en place, le régime de Joseph Kabila. Comment vous expliquez donc, je dirais, l'attitude qui a été celle des autorités publiques congolaises à l'époque lors de la remise de ce prix Nobel de la paix à un Congolais?
Oui, ben c'est ça ce qui a écœuré tous les Congolais, voire même la zone d'où est sorti Denis Mukwege, de voir qu'un fils du pays, un digne fils du pays, qui fait un travail remarquable et qui n'a pas été soutenu par les autorités de l'époque. Tout simplement, il était dans le camp de ceux qui dénonçaient le mal. Tout simplement, Denis Mukwege s'est rangé dans le camp de ceux qui estimaient que le pouvoir était déjà vacillant et que beaucoup de textes étaient violés, voire même la loi fondamentale, et qu'il fallait passer par le respect. Pour lui, Denis Mukwege, à l'époque, sa démarche était d'assister à un changement ou à une alternance à la tête du pays pour permettre non seulement au respect des lois, mais aussi terminer la guerre, parce que le fait de non-respect de la loi accentuer à une certaine mesure les violences du côté est du pays. Donc c'était tout à fait regrettable à l'époque de Kabila, voir que même les discours de Mukwege, même son documentaire qui a été tourné par les réalisateurs Thierry Michel, est passé avec beaucoup de difficultés après avoir eu beaucoup de discussions. Okay. Donc ici au Congo, la situation, pour terminer, est assez grave. Il faudrait probablement trouver des mécanismes pour lutter contre l'impunité, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de récompenser ces rebelles qui tuent, mais aussi appliquer une certaine fermeté.
Merci beaucoup. Justement, on va terminer avec notre invité pour parler des solutions.
On demandera à Marie-Élise Bouedo d'aller en RD Congo pour constater sur place la situation particulière.
Madame Bedo, quelles sont les solutions aujourd'hui? Et vous venez de dénoncer en quelque sorte, enfin vous venez de regretter que les femmes, elles-mêmes victimes, ne participent pas comme il le faut à la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Finalement, à qui incombe le premier rôle et la principale responsabilité, mission pour que cessent ces pratiques?
Moi je pense que nous devons revoir peut-être l'éducation en famille dès le bas âge. parce que aujourd'hui nous avons et tous les mécanismes, ça ne marche pas. Donc il y a eu une volonté politique bien affirmée. Nous avons des associations, des ONG qui font le travail de sensibilisation et poussent à la prise de conscience. Mais je crois qu'il faudrait expurger l'éducation de la, des filles et des garçons aussi, de tous.
Mais Madame Bédou, permettez-moi de vous interrompre, mais là encore, ce sont les mamans qui sont en première ligne de l'éducation des enfants. Ce sont elles qui éduquent.
Je suis d'accord. J'en viens à ça, c'est pour dire qu'il faut que nous-mêmes, les femmes, on prenne conscience. Et que puis ce sont les mamans qui éduquent. Qui disent que le garçon est fort, le garçon est plus fort que la fille, le garçon ne doit pas faire ci, ne doit pas faire ça, et il peut battre sa sœur, etc., etc. Donc il faudrait qu'on revoie, qu'on repense l'éducation que nous donnons à nos enfants.
Comment les femmes peuvent-elles revoir l'éducation, ajuster l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, filles, alors qu'elles-mêmes ne sont pas prêtes à se battre pour lutter contre ces violences? Est-ce que c'est vraiment une solution réaliste?
Non, je pense que celles qui peuvent déjà, qui ont la prise de conscience, c'est pour ça que nous sommes sur le terrain pour former, informer et pousser à cette prise de conscience et dire que nous, les femmes, nous sommes les premières à pouvoir changer la donne dans l'éducation que nous donnons à nos enfants des deux sexes. Parce que tant que l'ancrage patriarcal sera fort, où on trouvera que l'homme est le plus puissant, c'est lui seul qui peut donner des ordres, etc., et que la femme doit rester soumise, on ne s'en sortira pas. En tout cas, c'est ce que moi je pense et que nous pensons dans notre association, parce que nous avons tout essayé et nous ne comprenons pas pourquoi les femmes ne réagissent pas. Mais là où même le bât blesse, c'est que ça ne s'applique pas seulement aux pays africains. C'est mondial. C'est la nature même de... Est-ce que c'est la nature même de la femme qui veut qu'elle soit comme ça? Parce qu'aux États-Unis, en France, les violences continuent. On tue dans les couples.
Ce qui est nouveau quand même en Europe et aux États-Unis, c'est que depuis quelque temps, vous le savez bien, Marie-Élise Bédou, la parole des femmes se libère. Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'en Afrique, cette parole se libère? Parce que pour l'instant, il y a effectivement ce silence qui est observé, avec évidemment une charge de honte, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas justement demander aux femmes de parler, de ne plus accepter cette situation comme étant normale?
Tous les jours, moi je le dis, je viens de finir également une interview, j'ai même dit, pardonnez-moi, vous recevez des coups, partez. Quelle que soit la situation, partez. Avant, je crois que les femmes repartaient dans la famille, repartaient dans leur famille. Donc, il n'y a pas de honte à ne pas avoir un mari. Il n'y a pas de honte. C'est ça qu'il faut enlever de la tête de nos femmes africaines.
Il faut peut-être que les autorités publiques aussi mettent en place peut-être des budgets spécifiques pour apporter un secours matériel à ces femmes, non?
Absolument, c'est prévu, mais pour le moment, je peux vous dire au Bénin, c'est prévu. Mais bon, nous avons des centres de promotion sociale qui essaient de prendre en charge, mais il faut vraiment un budget digne de ce nom pour pouvoir accueillir ces femmes-là et assurer leur sécurité.
Merci.
Ça nous manque aussi.
Merci.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin invité depuis Cotonou, Marie-Élise Bédou, avocate, ancienne ministre du Bénin, présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin, la FJB, et notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Kinshasa, Edmond Izouba, journaliste au site d'information objectifinfo.cd. On va se rendre justement en RD Congo auprès de 80 civils tués à Beni et dans ses environs, dans le Nord Kivu depuis le 5 novembre dernier. Face à ces tueries commises par un groupe armé dénommé ADF, Forces Alliées Démocratiques d'origine ougandaise, la population excédée manifeste depuis plusieurs jours pour dénoncer l'inaction de la force onusienne MONUSCO, déployée dans le pays depuis deux décennies et dont le départ est désormais réclamé par les manifestants et une partie de l'opinion congolaise. Plusieurs personnes ont été tuées lors de ces manifestations par les forces de sécurité, mais aussi, selon certains témoins, par des éléments de la MONUSCO, alors que la tension demeure vive dans la ville de Beni. Et dans cette région, la question se pose désormais de savoir de quelles ressources dispose le pouvoir central pour répondre à la colère de cette population. Alors, première question pour vous, Edmond Izouba, vous qui êtes sur place. Est-ce que dans ce contexte, la contestation de la MONUSCO est justifiée selon vous? Est-ce que le départ de la MONUSCO serait une réponse définitive aux tragédies en cours dans cette région depuis deux décennies?
Francis, avant de donner la parole à notre
Liliane,
confrère,
c'est vrai qu'il y a l'élément
oui,
sonore.
Oui, je me suis rendu compte que
je suis allé très vite vers Edmond. Et
oui.
J'avais hâte de l'écouter.
Okay, ça va.
Je me rends compte, vous aurez l'occasion, Francis, juste après cet élément sonore hein, du correspondant de BBC Africa Kinshasa, Pauli Mousalia, qui revient sur ces attaques de groupes armés qui sont devenues quasi quotidiennes dans le territoire de Beni. Mercredi encore, les corps d'au moins 15 personnes ont été retrouvées décapitées dans la localité de Maliki.
Des corps d'hommes, de femmes et d'enfants décapités, c'est la macabre découverte faite par les habitants de Maliki ce mercredi matin alors qu'ils se rendaient au champ. Au total, 15 personnes ont été assassinées par un groupe d'hommes armés durant la nuit. Les soupçons des autorités et de la société civile se tournent encore une fois vers les combattants de l'ADF, un groupe armé d'origine ougandaise proche de l'organisation État islamique. Ce groupe d'hommes armés hostiles à Kampala opère dans la région de Beni depuis une vingtaine d'années. Il est sous le coup d'une offensive de l'armée congolaise depuis environ un mois. En représailles, ces combattants ont multiplié les attaques contre la population. Au cours des dernières semaines, près de 100 personnes ont ainsi été massacrées selon les organisations de la société civile. En réaction à ces tueries répétées, des habitants de Beni ont violemment manifesté lundi. Dans leur colère, ils ont incendié la mairie et saccagé l'une des bases des casques bleus dans la région. Les manifestants reprochent à l'armée et à la MONUSCO d'être incapables de protéger la population contre les attaques répétées de ces miliciens. Suite à ces manifestations, Kinshasa a annoncé lundi soir le lancement d'opérations militaires conjointes entre l'armée congolaise et les casques bleus. Pauli Mousalia, BBC Afrique, Kinshasa.
Oui, donc Francis. Je me tourne vers vous, Edmond Izouba. Donc, ces manifestations anti-MONUSCO sont-elles justifiées selon vous? Est-ce que c'est le départ d'un MONUSCO qui permettrait de régler tous les problèmes que la RD Congo connaît dans cette région, en tout cas depuis des décennies?
Merci beaucoup pour la question qui n'est pas assez anodine de répondre aussi rapidement. Il faut quand même venir certaines réflexions. Je commencerai par présenter toutes mes sincères condoléances aux familles éplorées et les victimes à Beni, à Boutembo et ailleurs, dans toute la partie grand nord de la RDC. S'il faut chasser la MONUSCO, est-ce que c'est ça la solution? Mais vous devez d'abord savoir que la MONUSCO, c'est une force de maintien de la paix. La MONUSCO ne remplace pas les forces loyalistes qui sont donc le FRDC, mais elle vient juste en appui au FRDC. Et la MONUSCO est là depuis plus de 20 ans par la demande des autorités congolaises. Et elle finira par partir, je crois, selon le vouloir de celle-ci. Que demande le peuple de Beni, de Goma et de Ituri, bref, du Grand Nord? C'est la paix, c'est le pain. Sans la paix, les activités économiques seront toujours perturbées dans cette zone. Les deux sont complémentaires. Quel est le bilan actuellement de la MONUSCO depuis sa venue en RDC? Quand bien même on sait que sa mission a été requalifiée pour permettre à ses forces d'attaquer, sauver les vies des citoyens civils, combien sont morts du côté de ces populations civiles qui n'ont pas demandé à Dieu d'être nés au Congo. C'est ici qu'il y a l'émotion mélangée avec tout ce que tout ce qu'il y a comme rumeur autour de ces casques bleus des Nations Unies, leur probable collaboration avec l'ennemi. Pas plus tard que quelques jours passés, je vous informe que certains éléments des casques bleus ont été saisis dans le trafic de vente des uniformes de FRDC. Oui. Donc il y a des suspicions.
Nous n'avons pas d'éléments pour confirmer ce que vous nous dites. Donc,
on va revenir à la question. Alors, l'une des grandes promesses du président Félix Tshisekedi était de mettre fin justement aux actions des groupes armés dans cette région du Congo, dans l'est du Congo. Et le régime de Kabila n'est pas parvenu à changer la donne. De quels atouts dispose le nouveau président pour éradiquer ce fléau?
Je pense que le président s'est exprimé devant les Nations Unies et devant dans plusieurs autres sommets.
Au-delà des discours, concrètement.
Le président est dans un mécanisme où il estime qu'il faut associer les différents pays africains de la région notamment, et même ceux qui sont accusés de leur implication dans ces guerres de l'Est.
Vous pensez au Rwanda et à l'Ouganda.
Dans la même direction, effectivement, oui. Le Rwanda, l'Ouganda, il va même plus loin jusqu'à associer Angola et d'autres pays, oui. Pour voir dans la même direction comment avoir des stratégies communes pour neutraliser l'ennemi. Parce que aujourd'hui, justement, le président entrevoit dans cette direction tout simplement parce que les forces, les casques bleus qui sont sur place ont justement failli à leur mission. On ne peut pas aujourd'hui compter 20 ans d'une force de maintien de la paix. Il est là, en train d'assister sans agir une population en détresse. Donc, je pense que le président a entamé des démarches diplomatiques qui pourra permettre à ce que la population retrouve la paix après plusieurs jours.
En quelques mots, justement, hein, on l'a suivi, le correspondant permanent de BBC Afrique à Kinshasa mentionnait que cela fait une vingtaine d'années que les groupes armés opèrent à Beni et que les populations vivent le martyr. Vous avez évoqué tout à l'heure le ras-le-bol exprimé cette semaine par des attaques des populations contre le bureau de la MONUSCO. Est-ce que vous pensez que tout cela, puisque désormais Goma a été touché par ces manifestations de colère, est-ce que vous pensez que tout cela va mettre peut-être plus de pression sur les autorités et les pousser à revoir fondamentalement la stratégie jusqu'ici inefficace de lutte contre ces groupes armés ?
Oui, mais les stratégies, je pense qu'il y en a eu de bonnes, hein. Il y en a eu des bonnes, mais qui malheureusement ont souffert parce qu'il y avait une certaine complicité qui a été dénoncée même du haut des Nations Unies. Il y a des généraux qui ont été accusés à l'époque de Kabila de collaborer avec les rebelles, mais ces généraux, jusqu'à présent, sont toujours dans l'armée. Donc, si ces complicités persistent, peu importe les stratégies qui seront adoptées.
Donc vous pensez que le président Kabila devrait démanteler l'armée, essayer de mener des enquêtes.
Tshisekedi, vous voulez dire.
Oui, le président. Absolument. Tshisekedi.
Oui. Absolument, c'est ça.
Que la réponse, les solutions viennent de l'armée, d'une réorganisation de l'armée.
Justement, c'est ça ce que demande la société civile depuis toujours, le changement dans les chaînes de commandement, parce que on ne peut pas comprendre qu'un général soit envoyé dans le front et rester pendant plus de 10 ans. Donc, il faut changer pratiquement les chaînes de commandement dans l'est du pays, faire certains aménagements dans l'armée. Et depuis qu'il est là, je pense qu'il va écouter cette émission. Aussi, permettre à ce que ce qu'il a déjà pris comme option au Conseil de sécurité, implanter le siège de commandement à un quartier général sur place à Beni pour traquer l'ennemi qui disparaît.
On verra bien plus tard la pertinence de cela. Je vais me tourner vers Marie-Élise Bédo. Marie-Élise Bédo, alors voilà donc la situation. Une population livrée à la terreur des groupes armés, une armée nationale qui n'est pas à la hauteur de la situation, on le voit bien. Et puis cette force onusienne, la MONUSCO, de la mission est désormais mise en cause. Est-ce que vous ne pensez pas que la parole du politique est particulièrement absente dans cette situation pour justement apaiser la population ?
Bien sûr que la réaction des populations est totalement légitime et compréhensible. Et la MONUSCO est là depuis plus de bientôt 20 ans, je crois 17 ans. Regardez les morts d'hommes, les maisons, les champs abandonnés, les incendies, l'insécurité alimentaire, qui est doublée par les poches d'insécurité sur l'éradication du virus Ebola. La population est fatiguée et c'est à juste titre. Bon, je me suis toujours posé la question de savoir quel est le rôle exact de la MONUSCO, les forces de maintien de la paix, qui sont censées protéger les populations. Que font-ils pour empêcher les massacres des populations? Comment peuvent-ils venir en appui aux
forces armées, aux FRDC,
pour qu'on puisse vraiment, avec une réelle volonté politique, en finir avec ces exactions que les populations subissent? Les populations ne demandent que la paix, le bien-être, vaquer à leurs affaires. Mais là, la population ne vit pas. La population vit dans la
terreur. Est-ce que vous avez le sentiment, Madame Bédo, qu'il y a comme une sorte de manque d'attention réelle de la part des politiques à l'endroit de cette crise de ces populations qui souffrent le martyre depuis des années ?
Et ça se comprend. Il y a trop de morts. C'est pas normal. Alors, le maintien des forces de la MONUSCO, ça fait quoi ? Quel est leur rôle concrètement ? Ils sont là, mais comment expliquer leur inaction et leur passivité ?
Est-ce qu'il ne faut pas redéfinir
la protection des populations ? Mais en quoi faisons finalement ?
Est-ce que ce n'est pas la définition de la mission de ces forces onusiennes ? Il n'y a pas que la MONUSCO d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas la définition de cette mission, de ces missions qui est à remettre en cause ?
Mais pourquoi pas ? Parce que ce sont des forces qui peuvent vraiment venir en appui et pourquoi pas combattre aussi. Mais ils attendent. Ils prétendent souvent même qu'on ne les a pas appelés à appuyer les forces.
Oui.
Bien sûr, les forces armées du pays se battent. Mais eux, ils sont là à regarder quoi ? Ça pose des problèmes aux populations. Les populations se disent, mais qu'est-ce qu'ils font là ? S'ils ne servent à rien, s'ils ne peuvent pas nous protéger et empêcher qu'on nous massacre, il vaut mieux qu'ils s'en aillent.
D'accord, merci beaucoup Madame Bédo. Il faut souligner, Francis, que les autorités précédentes, c'est-à-dire les autorités sous Kabila, avaient demandé le départ des forces de la MONUSCO. Pour terminer en quelques mots, Edmond, est-ce que la tension qu'on observe aujourd'hui entre le Burundi et le Rwanda d'une part, et de l'autre, du Burundi et du Rwanda, de l'Ouganda et du Rwanda, et puis de Burundi et du Rwanda. Est-ce que tout cela peut avoir une incidence positive ou négative sur l'insécurité à Beni ?
Non, pas du tout, parce que...
Je pose la question parce que ces deux pays, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, sont souvent soupçonnés,
leurs habitants.
Tout à fait, sont souvent soupçonnés d'être impliqués via des groupes armés dans ces violences dans l'est de la RDC. Alors les tensions qu'on observe entre ces deux pays, est-ce que ça peut avoir un impact sur cette insécurité dans l'est de la RDC ?
Non, je doute fort. D'abord, ce sont des tensions d'ordre diplomatique, d'ordre politique au même moment. Et les questions qui concernent la population sont d'ordre sécuritaire. Donc, ça peut les implications directes. Je ne pense pas. Peut-être si aussi dans ces guerres existait également la RDC. C'est vrai quand il y a par exemple des mouvements, des tensions, des conflits entre deux pays, la population a tendance à fuir et même à Goma actuellement, il y a les réfugiés burundais qui se trouvent être menacés par la population de Goma justement parce que à cause de l'implication accusée à plusieurs accusés de leurs autorités sur place.
Merci.
Mais dire que le froid entre ces deux pays pouvait avoir des implications ou ça peut avoir de l'influence, j'ai doute fort.
Merci beaucoup. Francis, notre dernier sujet, c'est la Guinée-Bissau. Et sans pause, nous allons partir pour ce pays. Domingo Chimoj Pereira, 56 ans, candidat du parti historique, le PAIGC, premier ministre de 2014 à 2015, arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 40,13% des voix, sera opposé à Umaro Sissoko Embalo, 47 ans, candidat du MADEM G15, également ancien chef du gouvernement du président sortant, Mario Vage. Monsieur Embalo, rappelons-le, a obtenu 27,67% des suffrages, mais il estime qu'il a obtenu en réalité plus de voix d'après son propre décompte. Et le président sortant lui-même, qui s'est présenté en candidat indépendant, a déclaré qu'il acceptait les résultats du scrutin présidentiel, malgré, dit-il, les irrégularités afin de contribuer à la pacification du pays. Et il a ajouté, le président de la Commission nationale électorale et son équipe savent pertinemment que je suis normalement admis pour le second tour du scrutin présidentiel. Madame Bédo, est-ce qu'on peut donc dire qu'on s'achemine vers un second tour plutôt perturbé de la présidentielle en Guinée-Bissau ?
Moi, je voudrais rappeler quand même que l'armée s'est engagée à ne plus se mêler de politique. Et que le président sortant, qui a été battu, s'est bien engagé à ne pas, empêcher le processus tant que tout se passe dans la transparence.
Mais il a quand même dit qu'il y a eu des irrégularités et qu'il était normalement qualifié pour le second tour.
Bon, je crois que ce sont des irrégularités qu'on dénonce souvent, mais je ne pense pas que ça soit de nature quand même à permettre au processus, une fois pour toutes, d'aller, d'avancer. Hein, moi, je pense que les populations sont fatiguées, les populations sont soucieuses de leur travail, de leur santé, de la stabilité. Et je pense que chacun doit mettre du sien pour qu'on puisse arriver à cette stabilité de cette ancienne colonie portugaise qui, depuis l'indépendance, n'a connu que des problèmes, des coups d'État. Donc moi je pense que avec l'aide de la CEDEAO, des chefs de l'État, d'État ouest-africain, on pourra toujours espérer que le président sortant, le président Vaz, va y mettre du sien.
Il va jouer un rôle important pour que l'élection se déroule de manière apaisée.
Pardon ?
Bon, je disais qu'il va jouer un rôle important.
Oui,
vous espérez qu'il joue un rôle majeur pour
tout
que les élections
se
déroulent bien.
Pour le moment, c'est le calme. On espère que d'ici le 29 décembre, tout se passera très bien.
Merci.
Pour que ce pays puisse vraiment revivre et surtout donner la joie aux populations, leur fierté d'appartenir à un pays stable, enfin.
Vous voulez dire que la défaite de José Mário Vaz à ce premier tour et le scrutin même dans son ensemble pourrait signer la fin de la crise politique que le pays connaît depuis plusieurs années, crise politique largement imputée. C'est la fin de l'ère Vaz. C'est la fin de l'ère José Mário Vaz.
Il est temps que vraiment les acteurs politiques puissent penser à la stabilité de ce pays et au développement de ce pays.
Est-ce que vous pensez que la CEDEAO aura joué un rôle largement positif dans cette affaire?
Je pense, avec tous les chefs d'État, je pense qu'ils ont beaucoup joué un rôle d'apaisement, et je pense que ça va continuer. Ils ont besoin d'être accompagnés, d'être assistés pour qu'on puisse développer ce pays et qu'on en finisse avec l'instabilité chronique, quoi.
Edmond, les législatives de mars dernier n'ont pas pu apporter la paix. Francis disait peut-être la présidentielle, ça peut être l'occasion afin de pacifier définitivement le pays. Mais il reste qu'il y a encore de nombreux défis à relever pour le second tour, tant par les deux finalistes que par la CEDEAO qui pilote la médiation. Quels sont d'après vous ces défis? Quels sont les enjeux de ce scrutin?
Bon. Les enjeux pour ces scrutins, il faut d'abord signaler les retours à l'ordre constitutionnel, c'est ce qui est plus attendu, mais également développer ce pays qui a été appauvri pendant plusieurs années. Mais la gestion de M. Vaz, les résultats qu'il a obtenus, et pour moi, c'est juste par rapport à sa gestion. Pour moi, il n'a même pas à revendiquer.
C'est une sanction, selon vous ?
Il doit. Oui, c'était vraiment des résultats sanctions. Il doit plutôt aller dans le sens qu'il a toujours animé, dans le sens de la paix, dans le sens d'encourager cet élan de retour à l'ordre constitutionnel au lieu de chercher à semer les troubles. Donc moi j'estime que pour ces élections qui se sont déroulées dans un climat un peu normal, que beaucoup d'ailleurs craignaient des risques d'une probable guerre civile, il doit aller dans ce même élan au lieu de chercher à perturber la situation. Donc pour moi, tel que les élections se sont déroulées, c'est un pacte de braves que la population a signé envers les futurs dirigeants et un jeu démocratique qui nécessite une certaine élégance.
Très bien.
Merci beaucoup, Edmond.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a oublié
de faire. Merci Edmond, le temps ne nous permet pas de poursuivre.
En retournant aux affaires, M. Valls, qu'est-ce qu'il viendra changer en plus?
Donc, merci. Juste signaler rappeler, Francis, avant de passer la parole à Didier, pour les réactions, qu'une alliance MADEM PRS devait être signée vendredi au moment où nous enregistrons l'émission. Finalement, cela a été reporté à mardi. Donc, je parlais d'alliance qui se négocie entre les différents candidats en vue du second tour.
MADEM, premier parti d'opposition au Parlement, hein, parti issu, il faut le dire, d'une dissidence au sein du PAIGC. Oui. On va écouter tout de suite les messages de nos amis internautes sur notre page Facebook. Message recueilli et livré à présent par Didier Ladislas Landau.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Violente fête aux femmes, Mephis Kiti déplore le manque d'engagement des décideurs politiques. Pour lui, les États africains devraient renforcer leur législation dans le but de mieux protéger les femmes. RDC Mukeina Nkongo Naomi affirme, je cite, « Moi je pense que la MONUSCO représente la communauté internationale ici chez nous. Donc si nous sommes parvenus à lever nos voix contre la MONUSCO, c'est parce que nous avons considéré que cette force onusienne ne joue pratiquement pas son rôle, celui de protéger les civils. C'est aussi une façon pour nous d'alerter le monde entier qui semble fermer l'œil par rapport à tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous avons besoin de la paix, rien que de la paix. Nous savons qu'il y a une part de responsabilité de cette communauté internationale par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Il est temps de prendre des grandes décisions. » Fin de citation. Guinée-Bissau, Gabun Daba Bourgeois se réjouit des conditions dans lesquelles s'est déroulé le premier tour de l'élection présidentielle et surtout du fait que pour la première fois, un président ait fini son mandat sans coup d'État en Guinée-Bissau. Néanmoins, il appelle à la vigilance pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Merci à Charles Bazema pour sa fidélité inconditionnelle. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous aussi, Didier. Marie-Élise Bédo, une conclusion générale. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de message sur les violences faites aux femmes.
Hein. Il y en a un quand même.
Il y en a juste un, mais ce sont des messages d'hommes. Hein.
Nous avons besoin des hommes pour faire le combat.
Ah, justement, il faut les éduquer aussi, les hommes.
Oui, c'est ça. Mais ce que je peux dire, je vais retourner en RDC et rendre hommage au docteur Mukwege, parce que c'est clair, la communauté internationale n'a jamais rendu justice aux victimes des viols, qui ont subi des viols comme armes de guerre. Or, le docteur Mukwege a demandé en vain l'établissement de tribunaux nationaux ou internationaux pour juger les coupables de ces violences sexuelles dans les conflits. C'est dommage.
Merci beaucoup, Marie-Lise Bédo. Merci d'être venue dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Je rappelle, vous êtes avocate, ancienne ministre du Bénin, présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin, la FJB. Merci encore. Merci à notre confrère invité dans cette édition, Edmond Izouba, journaliste aussi d'information objectif-info.cd, édité en RD Congo. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par Hugo Vallière, chargé de production Didier Ladislas Landau. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission comme d'habitude en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de débat BBC Afrique, Africa Radio, et vous serez dans des horizons absolument inconnus pour moi pour l'instant. Lilian, vous ne serez pas là la semaine
Francis,
prochaine.
Non Francis, c'est vous qui m'envoyez vers ces horizons que vous dites inconnus, donc
vous avez accepté
je ne vais pas tout déballer.
Vous avez accepté la mission.
J'accepte la mission avec plaisir. Rendez-vous pour moi dans 2 semaines. Au revoir.
Au revoir.